Regardez voir. La photo sur France Inter.
Bonjour et bienvenue dans Regardez voir. Dimanche dernier, nous avons rencontré des acteurs de l'éducation à l'image dans les régions. Vous pouvez d'ailleurs découvrir cette émission avec le podcast sur franceinter.fr. Cet après-midi, c'est un portrait. Le portrait d'un photographe qui s'attache aux regards, aux attitudes, aux gens aussi bien dans leur quotidien que dans des situations tendues, quand la liberté est menacée. Libre, homme libre, c'est ainsi que les berbères se désignent. Ferhat Bouda documente la culture berbère. Ses photographies sont le fruit d'une longue histoire qu'il a vécue d'abord en Kabylie, puis en France, et aujourd'hui en Allemagne. Avec ses quatre langues, il peut se présenter ainsi.
En Kabylie, Nek Farhat, Athat Bouda, parce qu'on ne dit pas Bouda, on dit Athat Bouda. Nek Farhat, Athat Bouda, tireur de l'Allemagne.
Et voilà. En arabe.
Donc en arabe, Farhat Bouda, Neskunf Allemagne. En fait, c'est la version, je ne sais pas si c'est dialecte, mais n'importe quel arabe, je pense, il peut le comprendre.
Ferhat Bouda est né en 1976 en Algérie et quand il arrive en France en 2000, il vit des espoirs contrariés. Non, il ne fera pas de cinéma. Oui, il fera des petits boulots qui ne nécessitent pas de papier. Et c'est dans l'un de ces petits boulots qu'il va trouver un appareil photo. La suite, vous allez la découvrir. Une suite qui n'est pas facile. Ce n'est pas parce qu'on trouve un appareil photo que l'on devient photographe. Aujourd'hui, il l'est. Lauréat de la bourse Pierre et Alexandra Boulin en 2016, représenté par l'agence Vue, publié dans la presse, exposé en Algérie, en Allemagne et en France. Je vous invite à nous rejoindre dans ce parcours à fleur de peau.
Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
Bonjour Ferhat Bouda.
Bonjour. Brigitte.
Merci d'être là dans Regardez voir. Où êtes-vous né en 1976, Ferhat ?
Je suis né à Bouzguen, dans un petit village en Kabylie, donc en Algérie.
Où est-ce que c'est la Kabylie en Algérie ?
Elle est au centre nord de l'Algérie.
Quelle est votre famille ?
Une famille très moyenne. En fait, moyenne, je suis né dans un village, donc c'était une période où... J'ai jamais senti, ou bien on sent pas qu'il y a des riches, il y a des pauvres. On était tous pareils dans un village, en fait. Il y a un certain système, peut-être, social, où tout le monde, en fait, on est tous presque au même niveau de vie. Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de moyens dans le village, plutôt de riches généralement.
Et vous êtes fils unique, Ferhat Bouda ?
Non, j'ai deux sœurs encore et un frère, mais je suis l'aîné, en fait.
Ah.
Ouais, je suis l'aîné.
Est-ce que ça vous donne des responsabilités importantes ?
Beaucoup. Surtout, j'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans, quand j'avais 14 ans. Et je dois m'occuper de ma famille, en fait. Donc, je bossais pendant mes vacances. Il fallait que je bosse, tout simplement.
Avez-vous de belles photos de votre père ?
C'est ça qui est important, ouais. Toutes les photos que je vois de lui, en fait, de ma famille, comme... Après, j'ai perdu mon père. Quelques années plus tard, j'ai quitté en fait l'Algérie pour venir en France. Si tu veux aussi, c'est une autre séparation. C'est pas une séparation éternelle comme la mort, mais de quitter sa famille, en fait, d'être émigré, c'est très dur. Donc, tout ce que j'ai de ma famille, toutes les photos sont très, très belles, en fait. C'est mes meilleures, je pense, photos que j'ai.
Très belle et précieuse, je suppose.
Ouais, effectivement.
On va parler, bien sûr, de votre parcours, Ferhat, et de votre arrivée en France, mais pour l'instant, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur votre scolarisation. Quels sont vos souvenirs de Ferhat Bouda à l'école?
Une très bonne question, mais bon.
Vous venez de dire catastrophe, hein.
Ouais, j'aime pas trop parler politique, mais à chaque fois que je me retrouve, je parle. Quand je t'ai dit, je suis né dans un petit village, je parlais que le berbère, en fait le kabyle. Juste entre parenthèses, généralement entre berbères, on ne dit jamais berbère, c'est un nom français, c'est plus tamazight. On dit je parle tamazight, mais berbère, voilà.
Ce qui veut dire berbère, pour nous,
voilà, pour
nous européens, nous comprenons mieux le mot berbère.
Voilà, le mot berbère, donc je l'utilise malgré. Donc je parle en fait le kabyle tout simplement. Et à l'âge de 6 ans, je rentre à l'école, je rencontre la première langue étrangère que j'ai jamais entendue, en fait, ou bien j'entends rarement, c'est l'arabe. Donc c'est mon premier souvenir à l'école.
C'est vraiment très différent, ces deux langues.
Oui, deux langues complètement différentes qu'on n'a pas appris parce qu'avec ma mère, je parle que le kabyle dans le village, avec tout le monde, mes amis en fait, quand on était gamin, on parlait que le kabyle, voilà.
Aujourd'hui, parlez-vous arabe ?
Oui, je parle arabe parce que j'ai appris l'arabe à l'école. Quelques années plus tard, le français, après l'anglais. Maintenant, je vis en Allemagne, donc...
Comment on dit, j'aimerais entendre la différence, comment on dit en berbère, en kabyle, je suis Ferhat Bouda et je vis en Allemagne, et comment on dit cette même phrase en arabe?
Bon, j'essaye, parce qu'il y a deux arabes différents. J'ai appris un arabe classique, et l'arabe, en fait, qu'on parle en Algérie, qui est presque un arabe particulier en Afrique du Nord, c'est plutôt un dialecte par rapport aux arabes du Moyen-Orient. Hein. Mm-hmm. Bon, j'essaye. Hein.
Bon, d'abord en kabyle.
En kabyle, nek farhat thatouda, parce qu'on ne dit pas bouddha, on dit thatouda. Nek farhat thatouda, c'est l'air de l'Allemagne.
Et voilà. En arabe.
Donc en arabe, farhat bouddha, neskunf Allemagne. En fait, c'est la version, je ne sais pas, c'est dialecte, mais n'importe quel arabe, je pense, il peut le comprendre.
Très bien.
Voilà.
Alors, donc, on parlait de l'école et de votre scolarisation et de l'apprentissage de la langue, enfin, d'arriver dans une école où, effectivement, c'était une langue étrangère, l'arabe, pour vous, et de vos difficultés, peut-être, à vous insérer. Moi, je sais, en tout cas, que vous avez boycotté l'école en 1994, puisque le mouvement culturel berbère, MCB, a appelé à boycotter l'école algérienne qui ne reconnaissait pas la langue berbère. C'est bien cela.
Effectivement, ouais. C'était la grève du cartable, ce qu'on appelait la grève du cartable. En Kabylie, on a boycotté l'école. C'est pour ça que, c'est bien d'apprendre les langues. Hein. En fait, je reviens là-dessus, j'adore toutes les langues. J'en ai rien contre l'arabe ou bien la culture arabe. Au contraire, j'aime beaucoup. J'ai appris ça, ça m'a aidé aujourd'hui dans ma photo. Après, j'ai appris le français, 4 ans plus tard, je crois, ou 3 ans plus tard, quelques années plus tard, voilà.
Et puis après l'allemand.
Voilà, l'allemand. Mais pendant la grève du cartable, le MCB a appelé pour un boycott jusqu'à ce que la langue berbère soit officielle et nationale en Algérie. Parce qu'à un moment, à l'école, on trouve ça normalement, on est formaté presque. On est formaté, c'est ta patrie, c'est ta langue, c'est ta religion. Mais au bout d'un moment, c'est vrai, on se pose la question, comment se fait-il? Je suis né là, je parle une autre langue. Et pourquoi j'ai pas le droit de l'apprendre à l'école? Pourquoi j'ai pas le droit, devant un juge, de parler avec ma langue? Peut-être moi je parle l'arabe, mais quand je parle des vieux qui n'ont pas été à l'école, ma grand-mère c'est un exemple, c'est pour ça que... Mais comme d'autres grandes-mères et d'autres grands-parents, devant un juge, ils peuvent pas
se, leur défendre.
Droit, se défendre.
Parler de leur histoire.
On peut perdre son droit tout simplement à cause d'une langue parce que le juge ne comprend pas.
Est-ce que c'est en tout cas ce mouvement qui vous a vraiment fait comprendre l'appartenance à cette culture berbère?
Beaucoup. Bon, j'ai eu cette conscience qu'il y a un arbitraire, en fait, il y a un déni culturel. En fait, j'ai eu cette conscience.
Je voudrais juste préciser qu'on parle de tout cela parce que Ferhat Bouda, vos photographies sont des photographies en règle générale, mais pas seulement, mais depuis des années, vous documentez la culture berbère et c'est aussi pour vous une forme de militantisme, de résistance. Pourriez-vous nous expliquer quels sont, s'il y en a, s'il est possible de les définir, les grandes lignes de la culture berbère?
Oui, en fait, j'avais dit tout à l'heure, j'étais dans un village où il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas de pauvres. Il y a un système social qui est très intéressant. Il est organisé dans chaque village. Il y a ce qu'on appelle Tejmath, c'est comme un parlement dans notre temps moderne. Donc, il s'occupe de tout. Quand il y a un pauvre, on sait, donc on lui donne. Il faut qu'on aide. La femme est respectée. Il faut qu'on sache, dans cette région, je ne parle pas que de la Kabylie, en Afrique du Nord, il y avait plusieurs colonialisateurs, il y avait plusieurs religions, mais on ne s'est jamais entretués, ou bien on n'a jamais fait des guerres pour les religions. Et comment, des siècles en arrière, ils ont trouvé un moyen pour vivre en harmonie Et aujourd'hui, c'est notre problème.
C'est votre problème, oui.
Aujourd'hui, c'est notre problème dans le monde entier. Mmh, et des siècles en arrière, dans le village, dans mon village, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a tout. Mais on a pu trouver un moyen comment on vit, on peut vivre en harmonie. Et ça, pour moi, c'est une valeur.
Alors, dans un premier temps, Ferhat, vous vous engagez pour défendre cette culture berbère et les Kabyles de façon théâtrale, musicale, je crois. Et puis, en 2000, vous quittez l'Algérie.
Ouais, c'était ça. Je pense cette période depuis le boycott scolaire jusqu'à 2010, c'était une période de recherche, si je peux l'appeler. Je me cherche, je me suis pas trouvé, je ne sais pas ce que je vais faire.
Donc, vous ne faites pas encore de photographie ou de façon passionnée.
Voilà, j'ai pas décidé en fait ce que je vais faire. J'ai fait la peinture, j'ai fait la sculpture par exemple, la musique, le théâtre en Algérie. J'arrive en France, je découvre la photo, je voulais faire un film. En fait, l'idée de quitter l'Algérie exactement, c'était pour faire un film pour ma grand-mère. C'était ça l'idée en 2000.
Pour apprendre à travailler dans le cinéma, à être réalisateur.
En fait, voilà, je voulais faire ça en Europe. Bon, je suis un rêveur aussi. Hein. J'ai décidé de quitter parce que je sais que j'ai plus de chance en Europe de tenter ma chance. Pourquoi ? Parce qu'elle me fait de la peine. Elle qui a combattu pour sa liberté, elle est là devant la télé. Elle ne comprenait rien. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a que les deux langues. Il n'y a que l'arabe et le français. Et c'est très dur, donc avec le temps, voilà, on a essayé le théâtre, c'était un groupe, voilà, la musique et tout. Donc j'étais dans une période de... Voilà, donc après j'ai quitté l'Algérie pour ça.
Vous souvenez-vous de votre arrivée en France ?
Oui, très bien même.
C'est-à-dire ?
24 mai en 2000, 24 mai. Je ne peux pas l'oublier parce que, comme je t'avais dit, c'est très dur de séparer sa famille. C'est très dur, surtout... comme l'aîné.
Est-ce qu'on vous a encouragé à partir ? Parce que vous êtes justement l'aîné, votre papa n'est plus là.
C'était très dur pour ma mère. C'est très dur Ouais.
Oui, je sens que c'est tellement difficile qu'on va faire une toute petite pause et on va peut-être revenir tout à l'heure avec cette idée que vous arrivez en France, que vous vous dites « je vais faire du cinéma ». Et que finalement, vous faites de la photographie. On se retrouve dans quelques instants, Ferhat. On reconnaît les premières notes, elles s'appellent Swad Massi. On aime beaucoup ce titre qui est sorti en 2000.
بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على ألف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية أحكي ونسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكينا على الجنة حكينا على النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي يا راوي كي ما حكى ولك ما تزيد ما تنقص من عندك كان يشفى ولا بلاك احكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية
Ferhat Bouda, on s'est remis de vos émotions. Donc vous arrivez en France. Et là, vous vous dites, je vais faire une école de cinéma. Mais finalement, non. Vous ne faites pas d'école de cinéma parce que sans doute, elle est très chère.
Effectivement. C'était le prix, ouais. C'était très très cher. Mais j'ai commencé à travailler, toujours. J'ai essayé de mettre l'argent de côté.
Quel boulot faisiez-vous ?
Dans les chantiers, les marchés, en fait, c'est que ce genre de boulot. Parce que c'était une période où, quelque part, j'avais les papiers, j'ai le droit de rester en France, mais j'avais pas le droit de travailler, en fait.
Bon, donc c'était ça. tous les boulots qui pouvaient vous payer comme ça.
Voilà, donc généralement, c'est des boulots que personne ne veut faire, tout simplement.
Et vous êtes un homme courageux ?
Oh, je ne sais pas. Mais bon.
En tout cas, c'est grâce à l'un de ces boulots que vous avez trouvé votre moyen d'expression.
Effectivement, on a été dans un chantier dans la région parisienne. On devrait, en fait, comment dire, jeter tout ce qui est dans un appart. Nettoyer un appart pour le refaire, en fait. Donc voilà, on devrait tout jeter. Et du coup, il y a un appareil qui traîne presque dans la boue.
Un appareil photo ?
Un appareil photo, un Nikon M. Je regarde, ah, c'est un appareil, je le prends, je le nettoie. Donc, c'était aussi une période où j'ai découvert le Centre Pompidou. Parce que quand je voulais le cinéma, donc j'ai essayé de lire sur le cinéma, d'avoir une culture sur le cinéma, tout simplement. Donc, je partais là-bas. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, tiens, puisque j'ai trouvé un appareil, donc j'ai fait des petites bases de techniques, j'ai appris la technique de base. Et voilà, j'ai mis un film et c'est bon. Ça commence, je photographie tout le monde, tout.
Mais est-ce que vous avez fait une école ?
Je suis parti dans une école. Après, j'ai rencontré quelques personnes dans une association. Donc, je faisais des photos des manifs, la rue. Et quand j'ai découvert le noir et blanc après, je me suis dit, tiens. Non, j'ai rencontré ces gens dans une association. Ils m'ont conseillé. L'école est faite.
Oui.
Je pouvais payer une fois par semaine, en fait. J'utilisais leur labo parce que je m'intéressais beaucoup plus au développement que j'ai découvert. Comme la photographie ne fait pas partie du tout de ma culture. C'était inimaginable en Algérie de faire ça, en fait.
Mais c'est ça, juste, on revient quelques instants en Algérie. Justement, quelle place elle avait, la photo en Algérie, dans votre vie, en dehors peut-être des photos de famille ?
Rien, en fait. Elle est inexistante. Tout simplement, elle est inexistante. On avait un photographe au village qui faisait les portraits pour les passeports, les cartes d'identité. Donc, quand je faisais cette école, soi-disant, juste pour rassurer ma mère, hein, oui. Je lui dis, ah maman, je fais mes études, voilà, un peu tout fier et tout en France, donc voilà. Elle m'a dit, c'est bien, on a juste un seul photographe, apparemment il va fermer, donc au moins tu peux le remplacer. Donc voilà, ça veut exactement. Dire l'idée du photographe. D'ailleurs, on l'appelle un Kodak chez nous. On l'appelle pas un photographe.
C'est vrai, oui. On dit un Kodak.
On dit un Kodak pour
mais
un
oui. C'est bien normal.
Non, mais c'est vrai pour un.
Mais aujourd'hui, la situation de la photographie en Algérie a changé.
Ouais, il y a vraiment de super photographes très intéressants.
Et à l'époque où vous commenciez comme ça, en allant à l'école et en bossant à côté.
Pardon, entre parenthèses, même pendant cette période, la décennie noire par exemple, il y avait des photographes, moi je leur tire chapeau d'ailleurs, je leur rends un grand hommage. Sans citer les noms, ils ont sacrifié pour ça. Je pense que c'est pour ça que voilà, la photo, on n'a pas pensé à faire autre chose. L'art, il y a des choses qui se passent, il faut faire ça. Mm-hmm. Tous les photographes sont engagés vraiment.
Ils l'ont payé très cher
d'ailleurs. C'est un grand hommage à eux, mm-hmm. un par un.
Et donc, je vous demandais si, dans ces moments-là, à Paris, où vous êtes un peu à les fêtes, vous bossez à côté pour gagner votre vie, rencontrez-vous des photographes que vous admirez ou chez qui vous allez chercher des conseils?
Au début, vraiment, j'étais presque à côté de la plaque. Je faisais la photo, je crois que je suis le seul. Non, mais c'est vrai. Surtout quand j'ai découvert Noir et Blanc. Je croyais que je suis le seul qui est dans ce monde qui faisait la photo. Mais j'en ai aucune culture. À l'école, ils m'ont dit, Henri Cartier, je ne savais pas. Mm-hmm. Et vraiment, mm-hmm. j'étais très fatigué de rester dans une situation où tu ne travailles pas en Europe. Je suis l'aîné, donc il y a cet attachement familial quand même. Donc j'ai décidé de rentrer, j'ai acheté
le matériel.
En Algérie.
Ah, vous êtes reparti en
Algérie?
Non,
j'ai décidé.
Oui.
Donc, j'ai acheté quelques appareils, j'ai acheté un matériel et je voulais repartir. Un jour, en fait, j'avais une copine, on a fait un petit tour. Moins de 3 quarts d'heure, on revient à la maison, ils m'ont tout cambriolé.
Non.
Si. Ils m'ont tout cambriolé. Tout ce que j'ai fait pendant 2 années, j'étais... Parce que de commencer la chose, de démarrer à zéro, ça va, on a le courage là dont tu parles tout à l'heure. Mais de repartir une deuxième fois, j'étais...
Anéanti.
Ah, j'étais anéanti. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc voilà la raison pourquoi je suis resté en Europe. Il fallait que je cherche tout, plutôt, voilà, je cherche le travail,
voilà
l'argent.
Voilà pourquoi vous n'êtes pas reparti en Kabylie.
C'est pour ça que je ne suis pas reparti, en fait.
Et voilà. Est-ce que c'est pour ça que vous avez fui Paris et que vous êtes allé vous installer en Allemagne?
Pas tout à fait, mais un petit peu aussi. Il y a un peu de ça, mais pas tout à fait. Après, j'ai rencontré une Allemande. J'ai quitté Paris.
Vous avez quitté Paris. Et est-ce que là-bas, à Francfort, c'est cela?
Oui, c'est à Francfort.
Est-ce que là-bas aussi, vous avez retrouvé des amis kabyles, des liens avec l'Algérie?
Oui, mais là-bas, c'est très très peu. Je pense que ça m'a aidé quelque part. J'étais très dépaysé par rapport à Paris. Ça m'a beaucoup manqué, la communauté. Mais d'autre part, le vide là que j'avais, c'est devenu une frustration. Donc je sortais pratiquement chaque jour à photographier, sans savoir pourquoi je sors. Sans savoir pourquoi. Je ne me suis jamais posé cette question. Je sors, je fais que des photos. Et je me suis inscrit dans un forum comme la MEP à Paris, en fait. Mmh. Photoforum, il s'appelle. Donc une fois, il y a Bruno Barbet qui est venu pour faire un workshop. Donc comme ils savent que je parle français, je ne parle pas allemand, c'était tout le début, ils m'ont dit « Ouais, Ferra, si tu veux participer, on te fait un prix et elle te parlera en français. » Bon, moi, j'ai fait juste l'inscription chez eux. Je dis « Ok, il n'y a pas de problème. » Donc il m'a conseillé quelques sites comme Magnum.
Bruno Barbet étant un photographe de chez Magnum.
Effectivement, oui. De chez Magnum. Quel conseil et tout. Et j'ai découvert les workshops.
Et ouais. Là, vous avez fait des workshops.
Après, bien sûr, je ne le fais pas tout le temps, mais je fais de la photo. Dès que j'ai un blocage, je vois ce qu'il me faut.
Je voudrais savoir comment ce projet, qui était là chez vous, en vous depuis longtemps, mais comment un jour vous avez pu le formuler en disant « voilà ». Maintenant, moi je m'appelle Ferhat Bouda, je suis photographe et je documente la culture de mon peuple.
Ouais. Avant, juste je parle sur ça, je reviens un tout petit peu sur ma période parisienne. Aussi la raison que j'ai quitté, l'un de mes meilleurs amis, elle était tuée à Paris. Donc Paris était devenu tout noir pour moi en 2004.
C'est pour ça que vous avez quitté
aussi,
Paris,
ouais.
Aussi.
Voilà, donc j'ai rencontré ma femme qui est allemande. En fait, l'idée, ça a tourné depuis que j'étais en Allemagne, je découvre la photo, je repars chez moi, donc je photographie. Bien sûr, moi qui étais tout petit, soit financièrement, soit techniquement, avec peu ou rien, ou pas du tout de moyens, quand je t'avais dit, je rêve. Mais j'ai dit, mais c'est impossible de réaliser ça. Et j'ai commencé à enlever ce terme, impossible. J'ai dit, il y a la possibilité, mais c'est une question de temps. Donc, j'ai vu, il y a eu un masterclass chez Magnum, parce qu'après, je commence à avoir une culture photographique, à s'intéresser à la photo, aux photographes, avec plusieurs photographes. Et je voulais assister ou bien dans un workshop d'Antoine Dagata. Donc, j'ai postulé et j'ai discuté avec Antoine parce qu'en 2010, j'avais 34 ans. Les gens en Europe, à l'âge de 34 ans, ils ont presque leur avenir, à moitié de leur avenir, c'est défini, quoi. Et moi, c'est là que je commence.
Oui.
Voilà. Donc, je sais qu'Antoine, il a commencé tard, la photo.
C'est vrai.
Voilà. Après, j'aime ou j'aime pas sa photographie, c'est autre chose. Mais j'adore sa philosophie.
Et qu'est-ce qu'il vous dit alors, Antoine Dagata?
Elle m'a beaucoup encouragé. J'ai lui montré ce que j'ai fait pendant cette période amateur, c'est, on peut dire ça. Je dis voilà, je fais ça, il y a ça, mais je voulais faire ça, ça, ça. Et c'est comme si quelqu'un qui est rentré dans mon cœur, il parlait à ma place. Incroyable. Et ça m'a beaucoup encouragé, en fait.
Et donc vous avez commencé à vous dire...
Je suis arrivé, dans ma tête c'était clair, c'est bon.
Très bien, on en parle dans quelques minutes de ce qui est bon dans votre tête et dans votre cœur. Et pour nous aussi, spectateurs de vos photographies, Ferhat Bouda.
Yeah. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
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 Uh-huh. So good, so good, so fucking real. Uh-huh. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
You know I love you so please don't stop it.
You got me right here in your jean pocket. Right now. Laying your body on a shag carpet. Ooh. You know I love it so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better.
Oh.
That's just the way you make me feel.
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 So good, so good, so fucking real.
So good, so good.
Janelle Monae dans les coups de cœur de l'été.
Regardez voir. Brigitte Patient. La photo sur France Inter.
Ferhat Bouda, on est resté sur ces mots tout à l'heure, dans ma tête, c'était bon. Ce qui était bien et bon, c'est que vous aviez enfin une ligne à suivre avec la photographie pendant un certain nombre d'années. Vous avez d'ailleurs suivi cette ligne en allant photographier dans le monde les peuples berbères. D'abord, peut-on savoir dans quelle région du monde on les rencontre? On peut rencontrer la culture berbère?
Bon, on est en France, on peut la rencontrer en France, en Europe. Il y a beaucoup d'émigrés parce que ils vivent généralement dans des endroits très durs. Donc ils émigrent soit à l'intérieur de leur pays ou à l'étranger. Sinon, on les trouve aujourd'hui. Le dernier voyage, je l'ai fait à Siwa. J'ai rencontré les derniers berbères en Égypte. En fait, Siwa, il est juste à la frontière libyenne.
D'accord.
Donc du Maroc jusqu'en Égypte, en passant par la Mauritanie, le Mali, Burkina Faso et le Niger.
Vous avez traversé, voyagé dans tous ces pays-là?
Tous ces pays-là, je les ai faits. J'ai fait tous ces pays. Après, il y a des pays où, généralement, c'est très dur de... En fait, j'avais un concept à moi. J'en ai aucune pression. Parfois, je fais un voyage, je reviens bredouille. Parce que je voulais pas revenir juste avec quelques images. Je voulais rencontrer vraiment cette culture. Je le fais pour moi, bien sûr, pour le montrer, certainement. Mais parfois, je pars, voilà, on revient avec quelques images, mais pas un travail assez fort. Donc, il faut que je reparte
voilà.
Encore. Il y a des pays où je dois repartir.
Vous avez besoin de temps?
Beaucoup.
Pour des rencontres? Vous n'êtes pas le photographe de l'instant? Vous n'êtes pas photojournaliste?
Non, j'ai besoin beaucoup de temps. Je fais avec plaisir le news aussi. Je l'ai fait quand j'étais en Allemagne avec DPA, l'agence allemande. Deutsche Presse Agentur. Mais pour ce projet, je voulais autre chose. Je voulais prendre du temps, le temps qu'il faut. Il y a des moments qui sont très intéressants. Bon, ça prend du temps pour faire vraiment le contact parce que c'est la confiance. Il faut que je me sente confiant, ils doivent sentir confiant aussi. Et les moments les plus intéressants, c'est quand on comprend. En fait, on les comprend sans qu'ils parlent. Il bouge, on voit le mouvement sans qu'il bouge. Et c'est ces moments-là que je cherche.
Et c'est ces moments-là que vous trouvez. Vos photos sont très impressionnantes parce que il y a ces mouvements, ces postures. On a l'impression, en regardant vos photographies en noir et blanc, que toute l'histoire de ces populations berbères, depuis la nuit des temps, est inscrite dans vos photographies. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement que... Quand on voit un enfant ou une femme, un visage et même un paysage, on a l'impression que dans vos photos sont imprimées les strates, comme le sol, vous savez, avec toutes les pierres qui s'accumulent au fil du temps. Alors je ne sais pas, quelle est votre façon de faire pour arriver à cela chez le spectateur?
Sincèrement, je ne le calcule pas. La seule chose que je calcule, en fait, j'en ai aucun concept, je pars. Je suis mon instinct sur place, mais la seule chose ou bien le seul concept que j'ai, pour moi, c'est comme un voyage dans le passé. Je voulais repartir, je voulais pas parler sur Marrakech qui est berbère, je voulais pas parler tout de suite, bien sûr ça va venir, mais je voulais repartir au maximum en arrière. Je voulais pas laisser ou bien lire un article dans un journal et je fais à peu près, j'aurais l'influence de ce journaliste qui a écrit ou bien son idée de partir. Donc je pars, je fais mes repérages tranquille, je parle, je discute avec les gens, on mange ensemble, on boit ensemble, on pleure, on chante, on rigole. À partir de là, voilà, peut-être. C'est ça qui fait cette chose-là, je ne sais pas.
Je vous propose, Ferhat Bouda, de regarder une première photo avec les yeux et la voix de Noëlle Bréham. Elle est productrice sur France Inter, productrice de l'émission Les Petits Bateaux, le dimanche. Elle ne sait pas qui a fait la photo, ni dans quelle série elle est. Écoutez-la.
C'est une femme, tellement jolie. Je ne sais pas quel âge elle a, mais disons 60, 70 ans. Elle est ridée. Et c'est ça qui est beau. Et quand on nous dit que c'est beau des rides, c'est toujours pour nous montrer une femme de 40 ans qui a l'air d'en avoir 70. Mais en fait, elle en a 40. Donc on est complètement perdu. Je ne sais pas quel âge elle a et je m'en fiche, mais elle a l'âge de ses rides. Et ses rides sont vraiment jolies. Elle a le nez busqué. Je suis sûre qu'elle peut se toucher le bout du nez avec le bout de sa langue. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle le fasse parce qu'elle a un côté gamine. vivante, j'ai l'impression qu'elle va parler. J'aimerais entendre ce qu'elle a à dire. Ou si elle ne va pas parler, elle respire. Ce qui prouve aussi qu'on est vivant. Et donc ça, c'est pour le visage. Donc quelque chose d'ancien et de juvénile en même temps, de joyeux, de vivant, quoi. Un foulard qui cache ses cheveux, mais qui décore, quoi, en même temps. Un joli foulard. Et puis une tunique. Photo en noir et blanc, et la tunique est colorée. J'imagine plein de couleurs. C'est joli, il y a des espèces de broderies. Et puis c'est deux ou trois épingles à nourrice. Moi, j'appelle ça des épingles à nourrice. Et je ne sais pas si ces épingles sont là pour remplacer les boutons, c'est-à-dire pour tenir plusieurs tissus ensemble, ou remplacer des points de couture, ou si elles sont là, histoire d'en avoir sous la main, parce que c'est quelque chose qui peut toujours servir. En tout cas, c'est vivant, là encore. Ça a un côté pratique, vivant, parce qu'elle est hyper soignée. Cette tunique, elle est hyper jolie. Et ça va bien avec le foulard, il y a un collier, il y a des boucles d'oreilles. C'est soigné, presque sophistiqué. Enfin, elle est belle.
Noël Bréham, l'auteur de cette photographie est là sur France Inter, c'est vous, Ferhat Bouda. Ouais. Qu'avez-vous à ajouter, à rectifier après les mots de Noël?
Ouais, c'est typique. J'aime beaucoup sa critique. J'aime beaucoup. C'est typique. La femme que je connais pour moi, elle représente la femme. C'est ma grand-mère, en fait.
Ah, c'est votre grand-mère?
Ouais.
Ça alors, il va encore falloir que nous prenions quelques moments, parce que ouais, vraiment, décidément...
C'est ma grand-mère, voilà, j'ai quitté à cause d'elle, et peut-être grâce à elle, c'est, je suis là avec vous aujourd'hui.
Ben, bien sûr, c'est elle qui vous a sans doute secrètement encouragé à quitter l'Algérie.
Ouais.
Mais alors, on peut parler d'autre chose pour que vous repreniez vos esprits quelques instants.
Non, ça va, ça va. Pourquoi j'ai dit elle représente la femme? Parce que je l'ai trouvée, elle a joué le rôle du père, du grand-père, de la mère, en fait, c'est ça pour moi les femmes.
Oui, et dans votre travail, quand on regarde toutes vos photographies, vous photographiez beaucoup de femmes aussi qui ont été très actives dans les rébellions, des femmes qu'on voit généralement pas.
Ouais.
Et je trouve ça impressionnant, cette position que vous affichez face à ces femmes qui sont fortes, qui sont engagées, et elles sont vraiment présentes dans votre travail photographique, Ferhat Bouda.
Ça aussi, sincèrement, je l'ai pas calculé, mais comme j'ai dit, hein, la plupart de dans ces villages où les hommes quittent pour qu'ils aident leur famille, ils travaillent ailleurs. Comme mon père, comme mon grand-père aussi, qui était émigré. Donc, je suis élevé par ma mère et ma grand-mère. Mm-hmm. Je pense que ça vient de là. Ce contact, il y a les deux femmes qui m'ont élevé, éduqué. Donc, voilà, peut-être j'ai ce lien.
Bien sûr, vous
avec
l'avez.
Ces femmes.
Bien sûr.
Ouais.
Et comment vivent les jeunes berbères, j'ai envie de dire, même si vous avez envie d'employer un autre mot, quand ils vivent dans des zones urbaines, que ce soit en Algérie ou dans d'autres pays, aujourd'hui, ont-ils conscience de leur identité, comme vous, par exemple?
Oui, il y a, aujourd'hui, j'ai un sentiment mitigé, on dit.
Oui, on dit comme ça.
Ouais. Parfois, on voit cette conscience, parce que, comme j'ai dit, on n'est pas mieux, mais on n'est pas aussi mauvais que les autres. Hein. Pour moi, c'est ces valeurs dont on parle, la démocratie, le respect de l'autre, le respect des religions et tout. C'est ça, quand je parle le berbère, quand je parle de ces valeurs. Donc, quand on trouve des gens comme ça, je trouve, bien sûr, il y a un certain espoir. Mais parfois, on trouve malheureusement autre chose, et là, ça me fait peur. Et il y a des populations aujourd'hui, comme Siwa, je viens de rentrer, ils sont conscients de l'ordre, ils sont en train de disparaître à petit feu.
Oui.
Ils sont conscients, et ça, ça me fait très très mal. Tu reviens, t'as un cœur brisé, tu reviens avec des photos, tu les regardes, tu te fais encore plus mal, et tu peux rien faire avec tes photos. Ils sont dans un pays, voilà, ils sont en train de partir un jour. Et on va devenir, ou bien ils vont devenir peut-être comme les Indiens en Amérique. Ou, bon, c'est ce que je souhaite pas. Mais malheureusement, il y a plein de signes comme ça. Donc voilà, c'est ça le plus dur.
Si tu t'en vas,
Si tu t'en vas un jour, tu m'oublieras. Les paroles d'amour, ça voyage pas. Si tu t'en vas, tu t'en vas. Si tu t'en vas un jour, tu oublieras. Les blessures d'amour ne s'ouvrent pas. Si tu t'en vas, tu t'en vas. Si tu t'en vas un jour, tout finira. Les choses de l'amour ne vivent pas. Si tu t'en vas, si tu t'en vas, si tu t'en vas un jour, rappelle-toi les paroles d'amour ne s'envolent pas. Si tu t'en vas, tu t'en vas. Si tu t'en vas un jour dans ces coins-là, nous parlerons d'amour comme autrefois. Si c'est possible,
vous êtes bien sur France Inter avec ce titre d'Aqua Serge, Si tu t'en vas. La rencontre se poursuit donc avec Ferhat Bouda de l'agence Vue. Ferhat, nous avons il y a quelques minutes regardé la photo de votre grand-mère et d'ailleurs je précise que toutes les photos dont on parle sont sur la page Regardez voir avec franceinter.fr. On va prendre une autre photo avec le regard de Fabrice Barbier. Il travaille à France Inter dans l'administration. Il aime beaucoup d'ailleurs la photographie en général et voici ce qu'il dit.
J'ai sous les yeux une photo magnifique, sublime, d'un noir et blanc avec une lumière superbe, un éclairage qui semble parfait. On dirait presque que ça a été pris en studio, ce qui ferait presque douter du fait que ça ait été pris sur le vif. A priori, on dirait plutôt que c'est des personnes qui ont posé. La photo représente donc une femme avec un enfant, on dirait une petite fille d'ailleurs, qui est sur son dos, attachée avec un grand drap ou un grand foulard, je ne sais pas. Et la femme en question est habillée en tenue traditionnelle des régions du Proche-Orient. Enfin, on peut supposer que la photo a été prise là-bas. Et ce qui est très frappant, surtout quand on voit la photo, c'est le regard de l'enfant qui regarde l'objectif de l'appareil photo. Alors, on ne sait pas trop s'il en a peur, s'il est surpris, étonné, s'il découvre ce que c'est qu'un appareil photo. Toujours est-il qu'il a des yeux on ne peut plus ouverts. Et puis, on n'est pas sûr non plus, je ne suis pas certain que ce soit sa mère qui le porte, parce que c'est une femme qui a l'air très très marquée, on ne sait pas si elle est résignée, si elle a beaucoup souffert. Elle n'a pas l'air malheureuse en tout cas, elle a l'air plutôt pensive, plutôt apaisée. Et elle semble un petit peu courbée parce qu'elle porte cet enfant et on suppose que ça représente un petit poids quand même derrière. En tout cas, cette photo était extrêmement poétique.
Merci Fabrice Barbier pour ces mots empreints de poésie. Ferhat Bouda, a-t-il dit des bêtises, Fabrice?
Non, pas du tout, pas du tout. Il y a juste une légende, quand je l'ai légendé, bon, avec
mais
mon français.
Mais vous savez, ceux à qui je... Pardon, Ferhat, ouais, mais ceux à qui je donne comme ça des photographies pour qu'ils nous en parlent, n'ont pas la légende et ne savent pas qui est l'auteur, qui est le photographe. Donc okay. Alors, la légende,
donc,
elle dit quoi?
Elle a bien trouvé, donc même moi, comme il a dit, je pense pas que c'est sa mère. C'est sa mère, en fait. C'est une mère qui porte son enfant sur son dos. Donc quand je l'ai légendé, j'ai dit, voilà, la mère avec sa petite fille. Après, on peut comprendre sa petite fille.
On peut penser que c'est la grand-mère.
C'est la grand-mère, voilà, oui. Bref. Mais l'importance, pour moi, ce qu'il a dit, c'est parfait, en fait. Ouais, elle a très peur. Mais je ne sais pas de quoi elle a peur aussi, c'est de l'appareil.
Qui a peur? Le bébé dans le dos?
Peut-être un peu. Ou bien de l'avenir, parce qu'en fait, moi, ce qu'il symbolise, la mère, c'est un passé, un présent, et elle regarde un peu dans le futur. Et ce bébé, c'est aujourd'hui et le futur. Je ne sais pas sa vie, la vie qu'on lui a réservée, ou bien son futur. En fait, c'est ça que je vois.
Que vous
fait.
Voyez, c'est assez voilà. symbolique d'ailleurs.
Voilà,
de votre
c'est plus symbolique.
Interrogation
voilà.
et de votre travail sur cette culture berbère voilà. qu'on a pu voir d'ailleurs la rentrée dernière, hein, en septembre 2017, à Visa pour l'image, où vous avez montré les berbères au Maroc, hein, c'est cela. Ouais. Ferhat Bouda, je sais que vous êtes marathonien. Toujours.
Oh, oui, quand j'ai le temps, oui, c'est vrai, je cours.
Est-ce que vous pensez que cela vous aide pour travailler la photographie, de faire des marathons? Est-ce qu'il y a un lien?
Oui, il y a un très grand lien.
Qu'est-ce que c'est comme lien?
Quand j'ai décidé de m'engager dans la photo, il y a eu aussi cette histoire de marathon. Donc tout le monde qui me disait le marathon est plus dur, je me disais mais arrêtons, si je m'engage dans la photo, donc le marathon est beaucoup plus simple. 42 kilomètres, on peut les terminer dans quelques heures. Mais la photographie, c'est pas 42, hein. C'est des millions de kilomètres.
C'est à vie, oui.
C'est à vie, voilà. Et donc quand j'ai décidé à faire ça, j'ai couru même une fois, j'ai couru le premier semi. En fait, j'ai couru normalement. La deuxième partie du marathon, je l'ai terminée en marche arrière. C'était le challenge.
Mais pourquoi?
Parce que c'est beaucoup plus simple que la photographie.
Très bien.
Ouais. Bon. Donc, jusqu'à aujourd'hui, au moins quand j'ai le temps, je cours le marathon de Francfort.
Mais à reculons?
Non, non, pas en marche arrière, en marche avant.
En tout cas, ça vous permet de vendre vos photographies. Vous avez publié dans des grands magazines, des hebdos. Vous avez aussi reçu le prix Pierre et Alexandra Boula pour l'année 2016. C'est une bourse hein, qui vous a permis de continuer à travailler, je suppose.
Ouais, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Il y a aussi un autre prix en Allemagne, Hessische Kulturstiftung.
D'accord.
Ouais, c'est une fondation à Hesse, à l'état de Hesse, une fondation culturelle. Voilà, donc ces deux prix ils m'ont beaucoup aidé à avancer un petit peu. Ouais, parce que sinon, je ne fais pas beaucoup de commandes. Bon, pas je ne fais pas, il n'y a personne qui vient chez moi. Donc c'est très très dur. J'ai besoin beaucoup, malheureusement d'argent pour réaliser beaucoup de moyens pour réaliser ce projet.
Des voyages.
Voilà,
bien
des
sûr.
Voyages.
Des billets d'avion, etc.
Ouais. Et aussi, malheureusement, il y a beaucoup de zones qui sont très très dures, compliquées à rentrer, donc on a besoin parfois des gens avec nous.
Sur certaines zones.
Voilà.
Bah, bien sûr, vous avez été d'ailleurs dans des moments de rébellion. Hein. Tout à l'heure, je parlais de la Libye, c'est ça, au nord du Mali aussi.
Voilà. Ouais, donc tout ça, parfois, on a besoin
d'être entouré et pas seul.
Oui, on peut pas partir avec son sac à dos et faire des photos là-bas, malheureusement.
Non. Ouais. Ferhat, on peut aussi regarder votre site,
ouais,
sur lequel il y a pas mal de vos photographies. Je voudrais aussi signaler que vous êtes distribué en France par l'agence Vue. Voudriez-vous, Ferhat Bouda, nous dire un dernier mot?
Oui, je remercie surtout, je vous remercie bien sûr, mais je remercie beaucoup ces peuples qui m'ont...
décidément, Ferhat.
Ouais. Et surtout ces peuples qui m'ont ouvert leur porte, en fait, de rentrer chez eux, mais pas que leur porte, leur cœur. Ils m'ont beaucoup... Voilà, ils m'ont accepté d'être chez eux, de les photographier parce que c'est leur intimité. Merci à eux surtout. Et merci à tous les gens qui m'ont aidé, à l'agence, vu aussi, qui m'a beaucoup aidé. Donc, d'autres personnes sont citées. Il y a aussi une personne à l'occasion que je cite, Christian Cujol aussi, que je remercie beaucoup.
Bien sûr, Christian Cujol, on pense à lui pratiquement dans chaque émission.
Voilà.
Regardez-vous sur France Inter. Merci beaucoup à vous, Ferhat Bouda, parce que grâce à vos images, on peut approcher, entrer un peu dans l'intimité de ces personnes.
Je peux encore juste remercier les derniers, les collègues photographes aussi, il y a plein qui m'aident, en fait, qui m'encouragent.
Merci, on a besoin de soutien, c'est bien quand on a du soutien. Au revoir, Ferhat.
Merci, merci beaucoup.
Bel été à vous.
À très bientôt, merci.
Et avant de vous quitter, je vous propose un petit livre, Cahier 2003-2016, Ferhat Bouda aux éditions Filigrane. En fait, Cahier, c'est une collection de carnets de travail édités en facsimilé. Chaque livre offre au lecteur la possibilité de pénétrer dans l'intimité du processus créatif chez les photographes quand l'œuvre est en gestation, croquis, esquisses, notes. Il y en a aussi un livre, un cahier pour Julien Magre qu'on va recevoir le 19 août. Maxime Ingrand et Élise Christophe sont à la technique. Perrine Malinge est attachée de production. Marie-Hélène Fauquet est la réalisatrice de Regardez Voir. Pour la programmation musicale, Thierry Dupin. La page est là avec franceinter.fr. Vous pouvez retrouver les musiques, les infos, les photos choisies, le podcast et tous les liens utiles. Je vous retrouve demain avec grand plaisir avec la photographe Lise Sarfati à 14h. Bel après-midi à vous sur France Inter. Dans un instant, juste après les informations, vous retrouvez la série des médias francophones publics. Appelez-moi Johnny.